VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Bamako, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. RDC, après deux jours d'agitation, la vie normale reprend progressivement dans le pays, notamment à Kinshasa, la capitale. Le président Joseph Kabila a finalement conservé le pouvoir au-delà de l'échéance de son mandat mardi, après le report inédit de l'élection présidentielle qui aurait dû avoir lieu cette année. Les partisans du chef de l'État justifient son maintien au pouvoir par l'article 70 de la Constitution congolaise stipulant qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais les anti-Kabila, qui réclament son départ de la présidence, citent l'article 64 de la Constitution, selon lequel tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Mardi, les affrontements entre jeunes hostiles au président Kabila et les forces de sécurité auraient fait au moins 9 morts à Kinshasa et 2 à Lubumbashi, la seconde ville du pays, selon le bilan du gouvernement. Mais l'ONU, pour sa part, évalue à 19 morts et 45 blessés le bilan de l'agitation anti-Kabila du 19 et du 20 décembre 2016. Un bilan présenté aujourd'hui à Kinshasa par José Maria Aranaz, le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, qui a dénoncé l'usage excessif de la force contre les manifestants par les forces de sécurité. On écoute M. Aranaz au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je voudrais rappeler les obligations des autorités de respecter les droits et libertés fondamentales. Nous sommes très préoccupés par les usages excessifs de la force par les agents étatiques, notamment la PNC, la Garde républicaine, la police militaire et l'ANR. Nous avons documenté au moins 19 cas confirmés de morts par balle et nous sommes en train de vérifier encore des autres cas. Aussi, 45 personnes blessées et les chiffres très élevés des arrestations à Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Goma. Nous sommes aussi très préoccupés par les restrictions du travail des professionnels des médias, qu'ils ont été arrêtés ou empêchés de faire leur travail, même aussi pour les restrictions au accès et à l'information par notre équipe, soit des droits de l'homme et aussi des autres collègues de la MONUSCO.
José Maria Aranaz du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC. Au plan politique, les évêques catholiques congolais ont adressé ce mercredi un ultimatum aux hommes politiques du pays, les pressant de s'entendre avant Noël sur une voie de sortie de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Kabila. La CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, n'est pas disposée à des prolongements indus et à des manœuvres dilatoires, a déclaré son président Mgr Marcel Outembi à la reprise des négociations arbitrées par l'Église, en précisant que la CENCO tirera les conséquences qui s'imposent en cas de non-conclusion d'un accord avant Noël. Pour sa part, Thierry Vieux-Coulon, coordonnateur de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI, estime que l'histoire risque de se répéter en RDC. Son analyse de la situation.
Il y a beaucoup de similarités entre cette situation et ce qui a été vécu dans les années 90. La première similarité, c'est évidemment Étienne Tshisekedi, puisqu'il était déjà présent et leader de l'opposition à cette époque. La deuxième grande similarité, c'est évidemment un président qui essaye de rester, de se prolonger au pouvoir contre l'avis de son peuple. Et la troisième grande similarité, c'est le fait que le régime de Mobutu était kleptocratique et que celui de Kabila l'est également. Cette situation, et du coup, ça le rend fragile, puisque la grande fragilité de la kleptocratie, c'est l'argent. Et on entre maintenant dans une période économique très difficile pour le régime congolais, comme le début des années 90 a été très difficile économiquement pour le régime Mobutu.
Thierry Vieux-Coulon de l'Observatoire de l'Afrique australe et des Grands Lacs à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Gambie, le président gambien Yahya Jammeh, qui conteste sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre, a affirmé qu'il ne quitterait pas le pouvoir avant une décision de la justice sur sa demande d'annuler le scrutin. Les détails avec Nani Talani.
Le refus de Yahya Jammeh de respecter les résultats de la présidentielle du 1er décembre est un défi à la CEDEAO et au reste de la communauté internationale. À l'occasion d'une rencontre avec des délégués de la Fédération des barreaux africains, le président gambien a réitéré hier soir sa volonté de rester aux commandes à Banjul jusqu'à ce que la justice se prononce sur son recours contre la victoire du candidat de l'opposition. Il y a 4 jours, les membres de la CEDEAO réunis au Nigeria en séance extraordinaire ont annoncé que l'organisation reconnaît M. Barrow comme le vainqueur de l'élection et ont promis de le protéger et d'assister à son investiture le mois prochain. Outre la CEDEAO, l'ONU et des puissances européennes comme la France exigent le départ de Jammeh, mais ce dernier persiste et signe « Je ne serai intimidé par aucune puissance dans ce monde. Je veux m'assurer que justice soit rendue. » Par ailleurs, l'opposition gambienne a indiqué hier qu'elle privilégie une solution négociée à la crise actuelle, écartant toute menace de poursuite contre le président sortant.
Retour sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest 3 ans après, dans le cadre de notre série sur ce dossier à VOA Afrique. L'épidémie qui s'est propagée en Afrique de l'Ouest de fin 2013 à 2016 est la plus grave jamais enregistrée depuis que le virus Ebola a été identifié en 1976. Plus de 28 000 personnes ont été contaminées, quasi exclusivement en Guinée, au Libéria ainsi qu'en Sierra Leone, et plus de 11 000 malades ont péri selon l'Organisation mondiale de la santé. 3 ans après le début de cette crise sanitaire sans précédent, comment vivent les survivants? Où en est la recherche scientifique? Notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara, s'est rendu à Kissidougou pour voir quel était le niveau de suivi des parents des patients guéris d'Ebola.
Tous les jours, Madame Thérèse Soropogui communique avec les guéris d'Ebola de Kissidougou.
Si par exemple c'est quelqu'un, c'est un guéri qui est malade, on met une équipe d'investigation sur le terrain. On oriente ce malade vers la structure la plus proche. Ça peut être un poste de santé ou un centre de santé. D'où on fait une prise en charge. Et si au niveau de ce poste, il ne peut pas faire la prise en charge, on oriente immédiatement au niveau de l'hôpital.
27 au total, ces anciens malades surveillent au quotidien leur communauté. Objectif, remonter toute information importante à la direction préfectorale de la santé.
Ils nous appellent pour nous dire s'il y a des événements. Ces événements peuvent être soit s'il y a un décès au niveau de leur communauté, s'il y a même des guéris d'Ebola qui tombent malades, s'il y en a, ils nous informent. Et s'il y a quelqu'un aussi qui est venu d'une zone affectée ou bien un étranger est venu au niveau de la communauté, ils nous informent.
Si l'information concerne un guéri d'Ebola, il est ensuite conduit vers le centre le plus proche pour une prise en charge gratuite. Depuis sa sortie d'un centre de traitement, Farah, élève de secondaire, assure la surveillance dans son quartier.
On nous a octroyé des crédits et l'argent pour les appeler. S'il y a des cas de maladie, on les informe. S'il y a des cas de décès, on les informe. Et si on reçoit aussi des étrangers, on les informe.
Ebola avait mis à nu la faiblesse du système sanitaire guinéen. La maladie a fait plus de 2500 morts. Pour éviter toute surprise, des centres de traitement épidémiologiques sont installés dans tout le pays. Du retour de Kissidougou, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
À Total Berlin, pour terminer, le ministre allemand de l'Intérieur a confirmé qu'un nouveau suspect était recherché pour son rôle présumé dans l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Tatiana Mousseau.
Un camion polonais, un chauffeur sans doute kidnappé, un suspect faussement accusé et un Tunisien recherché. Lundi, selon son employeur polonais, le chauffeur attitré du camion quitte son stationnement, parcourt 10 km environ vers un quartier ouest de Berlin. Là, il fonce sur la foule rassemblée sur un marché de Noël. La police retrouve le chauffeur polonais mort, tué par balle. Selon des médias, le conducteur a pu être kidnappé et forcé de conduire le camion vers la foule avant de se débattre et d'être tué. Depuis, un homme d'une vingtaine d'années originaire du sud de la Tunisie est recherché activement. L'homme est connu sous au moins 3 identités. La police est remontée jusqu'à lui grâce à un document d'identité retrouvé dans la cabine du camion sous le siège du conducteur. Ce Tunisien aurait entretenu des contacts avec un ressortissant irakien identifié comme Ahmad Abdulaziz Abdullah, alias Abu Wallah. Ce dernier a été arrêté en novembre avec 4 complices pour avoir monté un réseau de recrutement pour le compte du groupe État islamique, selon le parquet fédéral.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.